France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous, on vient de Managua. On est venu à cause de ce qui se passait. C'était dur hein, quand nous étions là-bas. Il y avait beaucoup de morts, des personnes, des enfants.
Depuis l'exil, ce que nous faisons, c'est dénoncer le gouvernement pour que le monde le sache. Nous cherchons comment rentrer au Nicaragua quand il sera libéré des assassins.
Ce qui nous préoccupe, c'est que la situation politique au Nicaragua ait un impact sur le chômage au Nicaragua. Beaucoup de personnes pourraient venir ici non plus pour des raisons politiques, mais économiques pour chercher du travail au Costa Rica.
Vive le Nicaragua libre, liberté pour les prisonniers. Une dizaine de jeunes au visage masqué se déploient sur une avenue fréquentée de Managua, brandissant des drapeaux bleus et blancs. Cette scène se déroulait hier dans la capitale du Nicaragua, écho fugace aux grandes manifestations lancées il y a 9 mois. Fugace car des policiers ont encerclé la zone en quelques minutes et les manifestants ont fui pour ne pas être arrêtés. Depuis septembre, les rassemblements de l'opposition sont jugés illégaux. Au départ, c'est un projet de réforme de la sécurité sociale qui a poussé des manifestants dans la rue. Mais la réponse policière fait enfler le mouvement né le 18 avril. Parmi les morts, un adolescent de 15 ans qui venait simplement apporter de l'eau aux manifestants. Quand le président Ortega tente le dialogue avec la médiation de l'Église catholique, les opposants réclament son départ et celui de son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo. Ils dénoncent un régime népotiste et corrompu. Pour Daniel Ortega, pas question de démissionner, il refuse tout autant d'avancer les élections. Ne reste que la répression à la Kalachnikov pour faire taire des étudiants armés de pierre. Depuis le 18 avril, estiment les organisations de défense des droits de l'homme, entre 320 et 560 personnes sont mortes, 600 ont été arrêtées, souvent condamnées à de lourdes peines pour terrorisme, et des milliers d'autres ont fui le pays. Certains exilés ont pris la direction des États-Unis, mais la plupart sont partis vers le sud, vers un pays frère, le Costa Rica, qui maintient sa frontière ouverte. Du Nicaragua au Costa Rica, l'exil face à la répression, c'est un reportage signé Maïwenn Bordron. Donc en reportage, nous recevons aujourd'hui Delphine Lacombe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste du Nicaragua, chargée de recherche au CNRS. Nous allons d'abord écouter ensemble le reportage de Maïwenn Bordron. Maïwenn, le Costa Rica est donc le principal refuge de ceux qui fuient le Nicaragua.
Oui, le pays a été très impacté par la crise nicaraguayenne. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. Il y a un an, en janvier, le Costa Rica recevait seulement 4 demandes d'asile de la part de Nicaragouayens, puis 24 en avril. 87 en mai. Ce chiffre explose enfin au mois de juin, au plus fort de la crise et de la répression du gouvernement de Daniel Ortega. Plus de 3300 Nicaraguayens déposent une demande d'asile au Costa Rica. Alors pourquoi la plupart des Nicaraguayens prennent la direction de ce pays voisin situé à la frontière sud? Eh bien vous allez l'entendre dans ce reportage. De nombreuses familles nicaraguayennes étaient en fait déjà installées dans le pays. Et pour ceux qui prennent la route de l'exil, eh bien se réfugier au Costa Rica, c'est plus facile car ils savent qu'ils trouveront des proches et du soutien.
Et nous prenons tout de suite la direction de San José, la capitale du Costa Rica. Et plus précisément, nous allons dans le parc Morazán où des réfugiés nicaraguayens sont réunis pour un hommage aux victimes et aux prisonniers politiques.
On dirait que c'était hier qu'ils ont détruit nos vies.
El sufrimiento es día a día.
La souffrance est quotidienne. On souffre parce que nos familles sont là-bas et pour un nombre incalculable de choses qui viennent augmenter la douleur et l'impuissance que nous ressentons. Mais nous avons aussi confiance. Nous croyons que cette répression, que ce gouvernement, ça va se terminer et on reste debout. Et on continue de se battre, on continue de montrer de quoi on est fait. Et nous croyons que chacune de ces vies qui ont été perdues, ça ne sera pas en vain. Et nous devons affirmer ces idéaux pour lesquels ces personnes ont donné leur vie. Je vous encourage à ce que nous rechargions nos batteries. Je vous encourage pour que chaque jour, on se lève en étant positif, avec cette énergie pour continuer à aller de l'avant. Pour continuer de se battre, pour renverser ces gens sans vergogne, ces assassins.
Viva Nicaragua libre!
Viva!
De que se van!
Se van!
De que se van!
Se van!
Ay, Nicaragua, Nicaragüita!
flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Liri Ángel.
Mi nombre es Karen Martínez.
Je m'appelle Karen Martínez. Mon mari est l'un de ceux qui sont morts.
El 8 de julio a las 6.
Le 8 juillet, à 6h12 du matin, on a entendu des détonations, des balles. Il s'est tout de suite levé, sans réfléchir, parce que son frère était dehors, derrière une barricade. Il voulait aller le voir. Et il voulait aussi soutenir les jeunes qui participaient à la lutte. Donc il est sorti, et à 200 mètres de notre maison, un sniper lui a tiré dessus, sur le côté gauche. La balle est sortie du côté droit et lui a perforé le poumon. Ils l'ont amené dans une clinique, mais c'était évidemment une clinique proche du gouvernement et ils ne l'ont pas pris en charge. 30 minutes plus tard, ils sont sortis pour nous dire qu'il était mort quand il est arrivé. Mais nous, on a les preuves qu'il est arrivé en vie. Mais ils lui ont pas prodigué les soins nécessaires pour pouvoir le sauver. Ensuite, j'ai dû me battre pour récupérer le corps de mon époux. Il voulait le transférer à la médecine légale. On a dû l'enterrer à l'heure imposée par la mairie parce qu'ils nous ont donné un horaire bien spécifique. Ce jour-là, le 9 juillet, le cimetière était complètement encerclé par les militaires et les CRS. Ils ne nous ont pas laissé beaucoup de temps pour être avec lui. On a juste eu le temps d'arriver, de l'enterrer presque à toute vitesse parce qu'on avait un créneau pour le faire. Après ça, quatre camionnettes rôdaient autour de ma maison de façon menaçante et intimidante. Et donc j'ai dû partir parce que j'ai reçu des menaces par téléphone. On m'a dit que si je continuais à faire la courageuse ou à jouer la brave qui soutient cette cause, on viendrait s'en prendre à ma famille et à mes enfants. Donc évidemment, j'ai dû quitter le pays, juste avec mes vêtements que j'avais sur moi, avec mes trois enfants, deux filles de 8 et 3 ans et un bébé de 4 mois. Ils ont détruit ma vie, ils ont privé mes enfants de la possibilité de grandir aux côtés de leur père. Un excellent père, un excellent époux. Mais malgré tout, je reste là, debout. Je crois que le Nicaragua bientôt redeviendra une république. Je dois agir pour que le sang de mon époux n'ait pas coulé pour rien. Je dois continuer à me battre.
Depuis l'exil, les réfugiés continuent de dénoncer la répression du régime de Daniel Ortega. Ils s'organisent et se rassemblent souvent en fonction des départements d'où ils sont originaires. Car au Costa Rica, tout le Nicaragua est désormais représenté. Ce dimanche matin-là, une soixantaine de réfugiés s'est réunie dans une maison de San José. Tous viennent du département de Masaya et ont décidé de lancer leur mouvement citoyen.
Bonjour, mon nom est Alvaro Gomez. L'objectif de notre assemblée, avec ceux de Masaya, c'est de nous organiser ici, depuis l'exil. Nous sommes un groupe de camarades exilés et inquiets de la situation. Nous ne sommes soutenus par aucun parti. Notre objectif principal, c'est d'envoyer un message vers le Nicaragua, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes là aussi. Mais le message, c'est aussi trouver comment on peut soutenir ceux qui sont au Nicaragua, mais surtout comment nous pouvons survivre depuis l'exil. Parce que c'est dur les gars. Si on ne s'organise pas, si on n'est pas ensemble, on ne va rien faire, et c'est provisoire. Et que veut Danielito Ortega? Qu'on soit désorganisé. Il divise pour vaincre. C'est ça que veut Daniel Ortega. C'est sûr qu'ici, on a tous des façons de penser différentes qui viennent de tendances différentes. Religieuses, tendances politiques. Ici, ce qui nous unit, c'est le drapeau bleu et blanc de Nicaragua. C'est ce qui nous unit en ce moment. Donc nous allons nous coordonner. Nous voulons nous coordonner avec tous les organismes qui ont cet objectif de rentrer au Nicaragua. Aujourd'hui, le 9 décembre, mon fils, Alvaro Alberto Gomez, celui qu'ils ont tué, il aurait fêté ses 24 ans. Mais la justice est en chemin. La justice humaine, mais aussi divine. Mais elle sera rendue. Viendra le moment où justice sera rendue au Nicaragua et on l'attend.
Alvaro Gomez.
Au fond de l'énorme salon, un drapeau bleu et blanc a été accroché sur un mur. Celui du Nicaragua, les couleurs sont devenues le symbole des opposants. À chaque rassemblement, les Nicaraguayens arborent les couleurs de leur pays et rendent également hommage aux victimes en scandant leur nom. Selon l'Association nicaraguayenne pour les droits de l'homme, 50 personnes ont été tuées dans le département de Masaya depuis le début des manifestations, et parmi elles, le fils d'Alvaro Gomez.
J'ai perdu mon fils. Ils l'ont assassiné le matin du 21 avril. Il a été tué d'une balle dans la poitrine, à 2 cm en haut de la côte gauche. C'est là qu'il a reçu la balle. On ne sait pas exactement d'où venait la balle, mais il a été tué dans le centre de Masaya. Moi, j'ai quitté le pays parce que j'ai toujours élevé ma voix contre le gouvernement. Dans les journaux, dans la presse, à la télévision, à la radio, j'ai élevé ma voix contre le régime en disant que les véritables assassins, c'était la famille Ortega Murillo. J'ai dit ça, mais j'ai aussi participé à certaines activités dans les barricades, en dénonçant le gouvernement, à des meetings, des réunions. C'est pour ça que je me suis senti menacé. Bien sûr, le gouvernement n'allait pas me dire « nous allons t'attraper ». Le gouvernement ne dit pas ces choses-là, mais le fait. Et vu que j'avais dit ce genre de choses, j'avais dit ce qui se passait au Nicaragua au niveau national et international, pour que ça se sache, j'étais une menace. Donc j'ai pris la décision avec ma famille de quitter le Nicaragua. Depuis l'exil, ce que nous faisons, c'est dénoncer le gouvernement pour que le monde le sache. Nous, ce que nous voulons, c'est quelque chose de pacifique. Nous ne voulons pas d'autre guerre. Nous cherchons comment rentrer au Nicaragua quand il sera libéré des assassins. Alors ici, depuis l'exil, nous nous organisons civiquement pour lutter contre le régime. C'est pour cette raison que nous nous organisons, pour être prêts à n'importe quel moment à commencer une lutte civique au Nicaragua.
Presque toutes les semaines, les réfugiés nicaraguayens manifestent devant l'ambassade du Nicaragua à San José. « Où est le peuple ? Il est dans la rue pour réclamer la liberté », crie-t-il pour que l'ambassadeur les entende. « Le peuple uni ne sera jamais vaincu !» Rentrer au Nicaragua, c'est ce que souhaitent la plupart des réfugiés, mais ils ne savent pas quand ils pourront le faire. L'année dernière, plus de 23 000 Nicaraguayens ont déposé une demande d'asile au Costa Rica.
Je m'appelle Alberto Cortés Ramos, je suis professeur à l'école de sciences politiques et de géographie de l'université du Costa Rica. Je suis d'origine nicaraguayenne, je suis binational, nicaraguayen-costaricain. J'ai travaillé pendant longtemps sur le thème de la dynamique migratoire entre le Nicaragua et le Costa Rica et en Amérique centrale en général. Le Nicaragua et le Costa Rica ont une longue histoire de liens migratoires très longue même. Il faudrait souligner que ça a généré la construction de réseaux et de liens très forts, surtout dans les années 70. Ça a commencé à la fin des années 70 avec les gens qui fuyaient la dictature de Somoza. Dans les années 80, il y a eu une migration importante à cause du conflit politico-militaire au Nicaragua. Le Costa Rica est alors devenu un pays d'accueil pour ceux qui demandaient l'asile politique. Dans les années 90, à cause du changement de modèle économique et des privatisations, beaucoup de gens ont fui pour des raisons économiques. À ce moment-là, le Costa Rica avait la capacité de capter et d'intégrer une bonne partie de cette main-d'œuvre dans des activités économiques qui se développaient dans le pays. Il y a donc une raison de voisinage, mais il y a aussi une raison liée à la stabilité politique du pays qui peut accueillir des gens qui fuient l'autoritarisme et la violence politique au Nicaragua. À tout ça s'ajoutent les liens qui existent, les réseaux familiaux, le fait que beaucoup de gens qui quittent le Nicaragua ont des connaissances au Costa Rica. Une bonne partie de la migration actuelle est en contact avec des familles nicaraguayennes qui vivent au Costa Rica ou même des familles binationales. Il y en a 120 000 au Costa Rica. Enfin, la situation économique du Costa Rica a toujours été historiquement meilleure que celle des pays du Nord, comme le Honduras, le Salvador ou le Guatemala. La migration vers le Costa Rica serait juste mise en concurrence avec celle des États-Unis en termes de conditions économiques. Et c'est clair que migrer vers les États-Unis est beaucoup plus complexe que migrer vers un pays qui se trouve à seulement 200 ou 300 km de distance.
200 kilómetros de distancia, no, 300 kilómetros.
Selon Alberto Cortés Ramos, les familles nicaraguayennes installées au Costa Rica ont joué un rôle clé dans l'accueil des réfugiés. Carlos Felipe Hueso fait partie des Nicaraguayens qui vivent à San José depuis une trentaine d'années. Il a créé SOS Nicaragua, Droits de l'Homme depuis le Costa Rica. Son ONG a lancé une cantine solidaire où viennent chaque jour 450 réfugiés nicaraguayens.
Là, nous sommes dans la cantine installée dans les locaux de la maison Sœur Maria Romero, une œuvre sociale avec qui notre association collabore. Nous, ce que nous faisons, c'est de leur apporter à manger deux fois par jour, soit petit déjeuner et déjeuner pour les migrants du Nicaragua, en comptant toujours sur le soutien à 100% des nonnes. Nous ici, on travaille de la façon suivante. On apporte de quoi manger seulement aux personnes qui sont arrivées après le 18 avril. Ce sont des personnes filtrées qui reçoivent un carnet qu'elles peuvent ensuite utiliser pour manger quand elles le veulent. C'est seulement destiné aux migrants. SOS Nicaragua est né après ce qui s'est passé le 18 avril. Nous n'existions pas avant. La majorité d'entre nous sommes des résidents nicaraguayens qui vivons ici depuis plus de 35 ans. L'association a été créée spécialement pour tenter d'atténuer la situation au Costa Rica qui fait face à cette migration massive. Ceux qui mangent ici sont là depuis 2 ou 3 mois, depuis l'ouverture de la cantine.
Vous parlez de crise humanitaire ici au Costa Rica ?
Estamos viviendo una crisis humanitaria.
Nous traversons bien une crise humanitaire, c'est le terme correct. Le gouvernement ne peut pas ou n'a pas voulu le dire, puisqu'il doit gérer ses problèmes internes. Mais pour que la communauté internationale aide le Costa Rica, il faut que ce soit les autorités qui déclarent l'urgence humanitaire. Alors, l'aide que méritent les migrants au Costa Rica viendra du monde entier. Aujourd'hui, les gens ont faim. Ils ont faim littéralement. Ils ne mangent pas trois fois par jour. Ils s'alimentent mal, beaucoup ne mangent qu'une fois par jour et certains ne peuvent pas manger du tout dans la journée. De nombreux Nicaraguayens qui avaient fui la répression ont dû retourner au Nicaragua tellement ils étaient désespérés. Beaucoup d'entre eux, à leur retour, ont été capturés, assassinés, où ils doivent vivre dans la clandestinité, dans des planques, parce que si on les attrape, leur vie est en danger.
Le président costaricain Carlos Alvarado a pris ses fonctions au mois de mai et à peine arrivé au pouvoir, il a dû gérer les conséquences de cette crise au Nicaragua. Il a dénoncé la violation des droits de l'homme dans le pays voisin et il a appelé la communauté internationale à réagir, à résoudre ce conflit qui a de lourdes conséquences sur le sol costaricain. Cette position n'a pas plu au Nicaragua. Le gouvernement de Daniel Ortega accuse aujourd'hui le Costa Rica d'ingérence dans ses affaires internes. Ce matin, pour en parler, j'ai rendez-vous avec le président de la République du Costa Rica, Carlos Alvarado, qui m'a donné rendez-vous dans la Casa Presidencial, la maison présidentielle, car ici au Costa Rica, il ne s'agit pas d'un palais, mais d'une maison présidentielle. La crise au Nicaragua semble ne pas avoir de fin. Il semble qu'il n'y ait pas de solution pour l'instant à cette crise. Donc ça veut dire que les réfugiés nicaraguayens vont continuer de venir trouver refuge ici au Costa Rica. Est-ce que aujourd'hui vous parlez de crise migratoire? Est-ce qu'il faut parler de crise migratoire au Costa Rica?
Nous ne parlons pas encore de crise, même si on voit que ça pourrait arriver en cas de détérioration de la situation. Actuellement, les flux migratoires sont contrôlés et se sont normalisés après les mois d'avril, mai et juin. Ce qui nous préoccupe, c'est que la situation politique au Nicaragua ait un impact sur l'économie et surtout sur le chômage au Nicaragua. Beaucoup de personnes pourraient venir ici non plus pour des raisons politiques, mais économiques pour chercher du travail au Costa Rica. Les flux pourraient alors augmenter et c'est notre principale préoccupation, même si nous ne parlons pas encore de crise. Ce qui nous inquiète, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est pour cela que nous avons lancé un appel à différents pays amis qui coopèrent pour nous aider à faire face à cette situation et plaider en faveur d'une solution politique au Nicaragua. Ça se passe à une échelle inférieure par rapport aux problèmes auxquels font face d'autres pays dans le monde. Mais il y a bien un problème et souvent, ça ne retient pas suffisamment l'attention, alors que la situation est vraiment aussi inquiétante que dans d'autres pays du monde.
Certaines ONG qui s'occupent ici des réfugiés nicaraguayens appellent l'État costaricain à déclarer l'état d'urgence humanitaire dans le pays. Que pensez-vous de cet appel lancé par les ONG?
La migration nicaraguayenne au Costa Rica n'est pas un phénomène récent. Beaucoup des migrants ont des réseaux de soutien au sein même de la communauté nicaraguayenne. Il n'y a pas encore de situation de misère où les personnes vivent dans la rue sans avoir de quoi manger, dans la précarité. Mais c'est une situation que nous suivons de près et qui pourrait déboucher sur d'autres types d'actions. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est de renforcer les services migratoires et de porter une attention particulière dans d'autres domaines comme la santé et l'éducation.
Hola, buenas. Chaque jour, 200 Nicaraguayens déposent une demande d'asile au Costa Rica. Pour gérer ces arrivées massives, le gouvernement costaricain est également aidé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'ACNUR, et son représentant au Costa Rica, Milton Moreno. Vous qui êtes sur le terrain pour venir en aide à ces réfugiés nicaraguayens, quelle est la situation pour que les réfugiés nicaraguayens obtiennent ce qui s'appelle ici le carnet provisional, le permis de séjour temporaire?
C'est l'un des défis majeurs pour le gouvernement et pour nous en tant qu'agence qui soutient les autorités. En avril, les arrivées de personnes ont vraiment augmenté et c'est clair qu'à ce moment, les autorités se sont retrouvées dans une situation très difficile. Elles n'arrivaient pas à gérer le nombre important de personnes qui arrivaient. Il y avait des files très longues pour récupérer ce permis de séjour dont vous parlez. La quantité de personnes qui arrivaient était trop importante pour être gérée. Donc, une de nos premières tâches ici, en tant que Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ça a été d'aider le gouvernement pour augmenter leur capacité de réponse. Ce qu'on a fait pendant plusieurs mois, ça a été de mettre à la disposition des autorités des moyens techniques pour qu'elles aient la capacité de gérer les dossiers, mais également de les soutenir avec du personnel. 30 avocats ont été affectés pour aider à gérer les dossiers. Mais au-delà de ça, nous mettons également à leur disposition un bureau pour qu'ils puissent accueillir toutes ces personnes qui viennent avec des équipes qui peuvent traiter plus de dossiers tous les jours. Parce qu'à un moment, vers les mois d'avril, mai et juin, il y avait tant de demandes de la part de ces personnes que pour certains cas, il fallait attendre 2020 pour que leur dossier soit traité. C'était vraiment préoccupant. C'est pour cela que le travail que nous avons réalisé a permis aux gens d'avoir une réponse bien avant.
L'ACNUR a également inauguré récemment un nouveau bureau à Upala, dans le nord du Costa Rica, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Nicaragua. C'est par cette petite ville que transitent de nombreux réfugiés. À leur arrivée, ils peuvent compter sur l'aide de la communauté nicaraguayenne.
Bonjour, mon nom est Vicenta González. Je suis de San José de Upala. Je suis nicaraguayenne. Ça fait 50 ans que je vis ici dans le pays. J'ai travaillé pendant longtemps. Les gens me connaissent bien parce que j'étais la sage-femme de la communauté. Le problème avec les réfugiés, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent et qu'on doit les accompagner pour leurs démarches administratives. On doit se coordonner avec les services de migration ou avec n'importe quelle autre institution qui nous soutient. Nous sommes disposés à travailler dans la zone nord. Nous avons un groupe de femmes qui œuvrent contre les violences faites aux femmes. Quand les réfugiés arrivent, ils cherchent un soutien et viennent nous voir pour qu'on puisse les aider à se rendre dans les centres. Parce que quand ils arrivent, ils ont reçu des coups, ils ont faim, ils sont mouillés, ou ils disent qu'ils ont dormi dans les montagnes, qu'on les poursuit ou ils se sentent poursuivis chez eux. C'est pour cela qu'ils ont dû quitter le Nicaragua.
Donc ça veut dire que depuis avril, au moment où la crise a commencé au Nicaragua, vous ne vous arrêtez pas?
Non. Souvent, on n'a même pas le temps ni pour notre famille, ni pour nous-mêmes, parce qu'on doit rester à l'affût de tout. Parfois, on n'a même pas le temps pour préparer le petit déjeuner, parce qu'on doit courir. Parfois, 4 ou 5 heures du matin, à 3 heures, ils arrivent et ils se posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Vers où je vais? Comment je fais? Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de quoi me déplacer. Donc nous, on vit dans l'attente. Parfois, même quelqu'un qui n'a pas de ressources peut beaucoup les aider. Mais bon, ceux qui n'ont rien se sentent un peu comme s'ils avaient les mains liées, parce qu'on n'a pas la possibilité de leur donner tout ce dont ils ont besoin.
À Upala, dans le quartier de Los Angeles, une famille de réfugiés a par exemple trouvé refuge dans une petite maison grâce à l'aide de Johanna, une voisine nicaraguayenne.
Une maison tout en bois avec juste des planches en guise de mur et des tôles sur le toit. Il fait très chaud ici, c'est l'été, c'est un temps très humide. Et on sent une odeur de bois, une odeur de fumée, puisque au fond de la maison, sous une bâche, ils ont installé une petite cuisine, un petit feu de bois pour faire cuire leurs fameux frijoles, ces haricots rouges typiques qu'on mange ici en Amérique centrale. Les deux chambres, elles sont séparées par des petites planches en bois. Ils sont cinq, donc c'est des conditions très précaires ici dans lesquelles ils vivent et pour pouvoir rester dans cette maison, eh bien, ils payent 50 000 colones. C'est un peu moins de 100 € par mois.
Je m'appelle Adelaida Albina Sabayo Porta. On a quitté le Nicaragua à cause de la situation. C'est très dur ce qui s'y passe. Alors on est venu ici. J'ai 3 enfants. Le plus grand a 11 ans. Et avec les 2 petits que vous voyez là, ça fait 3. Au total, nous sommes 5 avec mon mari.
Et vous êtes arrivé quand au Costa Rica?
Le 30 mai. C'était dur hein, quand nous étions là-bas. Nous, on vient de Managua. On est venu à cause de ce qui se passait. Il y avait beaucoup de morts, des personnes, des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Ça m'a fait peur. Puis mon mari a apporté de l'eau à ceux qui étaient derrière les barricades. Et bon, vous savez, après, on venait chercher les gens chez eux. J'avais peur parce que là où on vivait, près de chez nous, ils ont tué un voisin. Un tout petit, comme mon bébé là que vous voyez. On lui a tiré une balle dans la tête et ça a été très dur.
Et c'est bien d'avoir en face une voisine comme Johanna.
Ah oui, parce que Madame Johanna nous a aidés, notamment à nous orienter. Nous, on ne savait pas comment faire pour avoir un rendez-vous et pour aller chercher nos documents de demandeurs d'asile.
Je leur ai obtenu des billets de transport.
Ouais, elle nous a aidés.
J'ai parlé à la CNUR pour savoir comment ils pouvaient les emmener. J'ai vu avec eux comment ils pouvaient les aider.
Oui, c'est pour ça qu'on la remercie, parce que c'est elle qui va partout. Nous, on ne l'aide en rien. C'est vraiment elle qui nous aide.
Je me trouve devant les nouveaux locaux de l'Association nicaraguayenne pour les droits de l'homme, la NPDH. Cette association a dû fermer ses bureaux à Managua, la capitale du Nicaragua, au mois de juillet, après que le secrétaire général Alvaro Leyva a reçu des intimidations et des menaces pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme au Nicaragua. Il a donc choisi lui aussi de venir s'installer au Costa Rica pour venir en aide à l'ensemble des réfugiés nicaraguayens. Et ici, dans son petit bureau de San José, eh bien, il reçoit les victimes, les réfugiés nicaraguayens qui viennent déposer leurs témoignages, décrire quelles ont été les violations des droits de l'homme qu'elles ont subies. Et c'est comme ça que l'association réunit des preuves contre le régime de Daniel Ortega.
Regardez, voilà le résumé. Lésions dues à des agressions, 11. Persécution armée et sélective, c'est-à-dire avec une liste de noms à la main, 29. Menaces de mort, 25. Harcèlement lié à la politique, 19. Arrestation arbitraire, 1. Mandat d'arrêt, c'est-à-dire détention illégale, 16. Intimidation autour du domicile, 11. Domicile saccagé, 1. Licenciement injustifié, 1 pour ne pas partager l'idéologie du parti. Sinon, les autres catégories qu'il y a sont les tortures, destruction du logement des manifestants ou l'assassinat d'un proche. Ce sont d'autres violations des droits de l'homme classifiées. C'est-à-dire, nous, en tant qu'organisme de défense des droits de l'homme, on suit avec les réfugiés politiques qui viennent ici, dans le pays, toutes ces situations de violation des droits de l'homme, sans compter le rapport que nous recevons en permanence d'un centre de travail au Nicaragua, établi quelque part dans le pays, dans la clandestinité. C'est-à-dire, l'information que nous recevons est permanente, et cela nous permet de documenter de façon sérieuse, en tant qu'organisme sérieux de défense des droits de l'homme, toutes les violations commises durant cette crise qui est permanente, comme nous l'affirmons au Nicaragua.
Est-ce que l'ensemble de ces violations des droits de l'homme pourrait un jour amener Daniel Ortega à être jugé pour crime contre l'humanité?
El gobierno del Estado nicaragüense presidido por Ortega.
Le gouvernement nicaraguayen, présidé par Ortega et par la plupart des fonctionnaires, avec tous ces antécédents de violation des droits de l'homme, ont commis des crimes contre l'humanité et un génocide. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'un jour,
à
court ou moyen terme, ils devront faire face à un procès international pour définir leur responsabilité dans la mort de plus de 545 personnes, selon un dernier rapport préliminaire. Pendant toute cette période de manifestation, à partir du 18 avril jusqu'à aujourd'hui, ceux qui possédaient les armes avec lesquelles ont été tués et réprimés des citoyens, ce sont les forces de l'ordre. Au Nicaragua, ce que nous avons observé, c'est que les citoyens, eux, ont des instruments faits à la main et on ne pourra jamais les comparer aux armes à feu utilisées par la police et ses groupes. Des pierres contre des balles. C'est incomparable en termes d'usage de la force. Il n'y aurait jamais dû y avoir un seul mort pendant ces manifestations civiques et pacifiques de citoyens nicaraguayens. Il y a au Nicaragua une dictature sanglante qui viole les droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens. Et ce n'est un problème ni de droite, ni de gauche. Ce qui se passe actuellement au Nicaragua, ce n'est rien d'autre qu'un problème de violation des droits de l'homme.
Buenos días, bienvenido a LPDH. ¿Va a recepcionar su denuncia?
Chaque semaine, l'ANPDH reçoit environ 110 témoignages de réfugiés. Des bénévoles nicaraguayens les accueillent dans un petit local fermé à clé, à quelques pas du bureau de l'association.
Bon, je suis... Il ne faut pas donner mon nom pour des raisons de sécurité, vous comprenez ? Je suis un ancien militaire. Dès le début des manifestations, je n'ai pas été d'accord avec les actions réalisées par le gouvernement. Et puisque le chef suprême de l'armée, c'est le président de la République, et qu'il réprimait les étudiants et les personnes âgées, j'ai décidé d'abandonner les rangs et de m'exiler au Costa Rica. J'avais peur des représailles, qu'ils m'arrêtent ou qu'ils me torturent, et puis j'ai toujours une partie de ma famille qui est restée là-bas. J'ai ma femme et mes deux filles. Et je suis en train de voir comment, d'une façon ou d'une autre, je peux les faire venir ici quand je vivrai dans de meilleures conditions. Beaucoup de gens le nient, le gouvernement le nie. Mais si, l'armée a participé à la répression. Avec des fusils d'assaut, des fusils Dragunov. Vous pouvez le voir sur des images, sur des vidéos. On reconnaît des Dragunov, alors que l'armée en a l'usage exclusif. La façon de tirer, les tirs dans la tête, dans la poitrine des étudiants, ce sont des tirs propres que les policiers au Nicaragua ne pourraient pas faire. Des armes russes, des PKM, RPD, c'est-à-dire des armes de combat, de guerre, qui sont seulement utilisées en cas d'attaque, et elles ont été utilisées contre le peuple. Donc oui, l'armée a participé, certes de façon dissimulée et indirecte, mais oui, en fournissant des armes et des soldats. Ça fait partie des décisions que tu prends par acquis de conscience, parce que ce sont tes frères, tes camarades. Ça peut être un neveu, un cousin, un oncle. Donc, j'ai décidé d'abandonner les rangs de l'armée.
Et vous avez décidé quand de déserter l'armée ?
Exactement 15 jours après que ça a commencé, le 18 avril, j'ai décidé de ne pas y prendre part. Enfin, je ne l'ai pas fait non plus avant, par acquis de conscience. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de le faire. Même si ça impliquait de laisser tout ce que j'avais construit, une carrière, une profession, une famille, mes filles, ma femme, mes frères. Mais je me suis dit qu'il valait mieux ne pas participer. J'en ai parlé avant à beaucoup de personnes, à ma mère, à ma femme, mais j'ai décidé que ce n'était pas possible d'utiliser tes armes contre ta propre patrie. Ici, moi, je suis en danger. J'ai déjà été suivi deux fois. On m'a menacé. C'est une situation difficile parce que tu es loin de chez toi, de ta famille, et là encore on te suit pour te tuer. C'est compliqué.
Et même au Costa Rica, vous ne vous sentez pas en sécurité ?
Non, je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité. Tu ne peux pas dormir, manger. Tu ne peux faire confiance à personne. Tu ne peux rien faire parce que tu ne sais pas à quel moment ils vont te tuer.
Quand vous voyez votre situation, est-ce que vous avez des regrets ?
Je crois que la seule chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir quitté le Nicaragua et de ne pas avoir utilisé mes armes pour tuer des gens. Parce que j'aurais peut-être froid ou faim, mais au moins, j'aurais la conscience tranquille.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de virgen. Ay, Nicaragua, soma dulcita, que la nevita de Tabaga.
Du Nicaragua au Costa Rica, l'exil face à la répression. Un reportage de Maïwenn Bordron avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous retrouvons notre invitée, la sociologue Delphine Lacombe, spécialiste du Nicaragua. Delphine Lacombe, au-delà des témoignages que l'on vient d'entendre, qui sont les opposants à Daniel Ortega ? Est-ce qu'il y a des profils que l'on arrive à définir ?
Alors les opposants, il y a des opposants de longue date, pratiquement depuis le début de la réascension au pouvoir de Daniel Ortega, que l'on connaît, qui se sont manifestés comme tels, qui proviennent essentiellement de la dissidence du Front Sandiniste de Libération Nationale, une dissidence qui a été fondée dès après le conflit armé en 1994-1995 par l'ancien vice-président Sergio Ramírez et par une ancienne guerrière qui s'appelle Dora María Telles. Il y a une opposition dans la société civile, il y a une opposition de droite qui est elle-même dissidente de la droite qui avait pacté avec Daniel Ortega pour que celui-ci revienne au pouvoir. Il y a une opposition qui existe également depuis le retour pour Daniel Ortega, qui est une opposition des paysans, qui a lutté contre la construction d'un canal interocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique. Bon, ce qui est intéressant, c'est que Daniel Ortega, qui avait une alliance en fait au pouvoir avec le secteur de l'entreprise privée, s'est aliéné l'entreprise privée, il s'est aliéné l'Église aussi, qui était divisée, mais avec qui, notamment la personne du cardinal Miguel Obando y Bravo, il avait réussi à créer des alliances. Aujourd'hui, l'opposition, elle s'incarne par l'union nationale azul y blanco, blanche et bleue, et elle rassemble en fait toute cette accumulation de colère et d'opposants qui ont convergé au fil de toutes ces années et qui ont fini de converger vraiment après les événements du 18 avril. Cette opposition, elle a trois grands pôles aujourd'hui. C'est l'Alliance civique qui a été constituée pour organiser le dialogue national au cours du mois de mai de l'année dernière. Elle a des opposants qui s'étaient déjà organisés autour du Frente Amplia por la Democracia, où on retrouve des figures comme Violeta Granera, où on retrouve le mouvement de rénovation sandiniste par exemple. Et puis il y a l'articulation des mouvements sociaux dont les représentants sont aujourd'hui au Costa Rica.
Et alors la réforme de la sécurité sociale pour laquelle beaucoup de gens étaient descendus dans la rue au mois d'avril 2018, est-ce qu'elle était importante en soi ou est-ce que c'est juste une étincelle de plus ?
C'est une étincelle de plus. Elle était importante dans le cours politique quand même parce qu'elle a été décidée contre le secteur de l'entreprise privée. Mais c'est que ça reste quand même ce qui a mis le feu aux poudres à la fin du mois d'avril, juste après des mobilisations qui étaient là, qui étaient très présentes en particulier chez les étudiants et qui étaient les mobilisations environnementales alors que l'État n'avait, le pouvoir en place n'avait pas du tout réagi ou n'avait pas bien réagi devant la catastrophe de l'incendie forestier de la réserve Indio Maïs, alors même d'ailleurs que le Costa Rica, puisqu'il s'agit du Costa Rica aussi dans cette émission, avait proposé d'apporter son aide.
Et alors, dans les opposants, il y a, parce que c'est un peu compliqué quand on est loin du Nicaragua, des opposants qui se disent sandinistes, ce qu'est également Daniel Ortega. Donc sandiniste contre sandiniste, c'est pas forcément évident d'y voir très très clair.
Mais les dissidents du Front sandiniste de Libération nationale, qui, comme je le disais, ont constitué le mouvement de rénovation sandiniste en 1994-1995, ont été considérés comme des traîtres et en fait les premiers ennemis de Daniel Ortega quand il s'est agi pour lui de revenir au pouvoir, même si, et c'est quelque chose qu'on ne souligne peut-être pas assez, mais même si avant le retour au pouvoir de Daniel Ortega, il y a eu quelques alliances ponctuelles entre ce mouvement de rénovation et le Front sandiniste. Donc effectivement, je vous l'accorde, c'est complexe, mais il n'empêche que voilà, ces dissidents, qui ne s'incarnent pas seulement dans le mouvement de rénovation sandiniste, il y a aussi le mouvement de rescate et le sandinisme, de retour aux sources, en quelque sorte, du sandinisme historique, existent aussi, et ils ont tous peu ou prou en commun de vouloir démocratiser l'héritage du sandinisme.
Une question de Maïwenn Bordron.
Oui, donc on parle de sandinistes et des proches de Daniel Ortega. On a l'impression que de plus en plus le président du Nicaragua est isolé dans le pays. Et je pense notamment à cette démission qui a causé presque un petit séisme il y a 10 jours au Nicaragua, la démission de Rafael Solis, un juge de la Cour suprême. C'est un proche du couple présidentiel Daniel Ortega Rosario Murillo. Est-ce que Daniel Ortega, est-ce que ces démissions vont continuer? Est-ce qu'il va y en avoir en cascade? Et est-ce que ça va finir par l'isoler de plus en plus?
La démission de Rafael Solis, c'est un vrai coup dur contre le pouvoir en place. Pourquoi? Alors, non seulement parce que Rafael Solis était un proche, un ami, le témoin de mariage de Rosario Murillo, Daniel Ortega, qui dirige cette dictature à l'heure actuelle, mais c'est l'artisan principal à la Cour suprême de justice du verrouillage des institutions et surtout de la modification de la Constitution pour que Daniel Ortega puisse être candidat, pour qu'il puisse se perpétuer au pouvoir, en fait. Puisque c'est grâce à l'argumentaire de la Cour suprême de justice, selon lequel c'était une discrimination à l'encontre de Daniel Ortega que de ne pouvoir présenter sa candidature à sa propre succession, qu'il a pu, en fait, être un nouveau candidat et continuer de verrouiller les institutions.
Mais alors là, Rafael Solis, il est très très sévère, hein. Il accuse Ortega d'avoir créé un état de terreur au Nicaragua.
Et c'est pour ça que c'est un coup dur, parce qu'il ne fait pas que démissionner. Il renonce à son appartenance au Front sandiniste de Libération nationale et la lettre qu'il adresse à la compañera Rosario Murillo et à Daniel Ortega indique en effet que actuellement c'est un état de terreur que vit la société nicaraguayenne et que c'est ça qui est intéressant, c'est que les décisions qui ont été prises impliquent le pouvoir judiciaire, en fait, et qu'elles ont été prises de manière arbitraire et que, de ce fait, tous les jugements qui ont eu lieu ne sont pas légitimes.
Maïwenn.
Par rapport à cette démission, est-ce qu'il faudrait, parce que Daniel Ortega semble s'accrocher au pouvoir, semble le faire changer d'avis alors que toute cette opposition demande son départ, est-ce qu'il faudrait qu'il soit lâché en fait par ses plus proches pour que quelque chose change, parce qu'il y a eu des avertissements un petit peu de la communauté internationale, mais des avertissements qui n'ont pas semblé faire changer les choses, est-ce que le changement viendrait de là, de l'intérieur?
Alors par rapport à votre question, effectivement, il y a eu d'autres démissions. On sait que des juges, pour prolonger ma réponse tout à l'heure, on sait que des juges ont démissionné et qu'il pourrait y avoir, en effet, ça a déjà commencé, d'autres démissions dans la foulée de celle de Rafael Solis. Il y a une pression internationale qui va crescendo, qui prend place à la fois aux États-Unis et dans l'Organisation des États américains. Pour résumer, du côté des États-Unis, la NICA Act, qui a été votée par le Congrès et ensuite décidée par Donald Trump, sanctionne à la fois des personnes, mais sanctionne le pouvoir en place, en réalité, avec des conséquences qui peuvent être très lourde pour l'économie du pays, puisque des prêts de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque mondiale pourraient être soumis à de nouvelles conditions, pourraient ne pas, ne plus être accordés dans un nouveau programme qui va de la 2018 à 2021-2022. Et ça, quand on sait que la Banque interaméricaine de développement contribue à un bon quart du budget national, ça peut avoir des conséquences très graves qui, effectivement, sapent les bases du régime, puisque le pouvoir en place pourrait se retrouver à ne plus pouvoir accorder les subventions pour les transports, à ne pouvoir plus payer ses fonctionnaires. Donc ça, évidemment, ça a des conséquences majeures. Et du côté de l'Organisation des États américains, là, c'est la possibilité de l'exclusion en fait de l'organisation de l'OEA, de l'Organisation des États américains, qui là aussi pourrait avoir des conséquences majeures au plan économique, et qui en fait c'est une pression qui consiste à pousser Daniel Ortega à la négociation, parce que pour l'instant il s'accroche, comme vous dites, au pouvoir, il refuse toute forme de négociation.
Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que le Nicaragua, c'est le deuxième pays le plus pauvre du continent.
Oui.
La crise économique s'approfondit. Hein. On a une contraction là du PIB en 2018, mm-hmm. alors qu'il y avait une croissance tout à fait conséquente l'année
de
précédente.
5% au cours de toutes ces années. Et là, on s'achemine vers une récession très grave.
Oui. Donc là, il y a vraiment un coup d'arrêt pour l'économie oui. nicaraguayenne. Et avec, on entendait la préoccupation du président du Costa Rica, qui dit, si ça se trouve, là, maintenant, il va y avoir une migration économique aussi plus importante, non seulement celle des opposants, mais aussi celle de personnes qui n'arrivent plus à vivre correctement au Nicaragua.
Oui, ça pourrait être l'effet. La migration économique existe déjà, mais elle pourrait s'amplifier considérablement.
Alors que Daniel Ortega, lui, je crois que sa fortune personnelle, tout va bien pour lui.
Sa fortune personnelle, tout va bien pour lui, en effet. Oui.
Maïwenn Bordron.
On parle des conséquences économiques, mais une question que je me suis posée en voyant tous ces opposants exilés au Costa Rica, c'est aujourd'hui au Nicaragua, est-ce que il est encore possible de poursuivre cette résistance pacifique? On a l'impression que tous les opposants quasiment aujourd'hui sont exilés au Costa Rica, toutes ces figures de l'opposition sont au Costa Rica. Certes, elles s'organisent pour continuer à dénoncer les exactions du régime, mais au Nicaragua, comment faire? Parce que tous ces opposants partent, quittent, les médias, sont victimes de la répression du régime. Donc, comment faire pour poursuivre, pour continuer à manifester?
Il y a encore, malgré les emprisonnements arbitraires de, par exemple, de journalistes, enfin, de journalistes indépendants. Je pense à peu avant Noël, à Mora et Lucia Pineda, qui dirigeaient la chaîne d'information 100% Noticia. Voilà. Enfin, disons que l'opposition compte encore sur des médias indépendants qui parviennent, malgré ces pressions et ces menaces d'emprisonnement et ces emprisonnements effectifs, à publier et à informer.
Là, cette chaîne a été fermée.
100% de son site, elle a été fermée, absolument. Oui.
Donc, il reste,
reste confidentiel, il reste la presse avec des menaces.
Confidentiel, les locaux ont été saccagés.
Oui, merci de le préciser, vous avez raison, oui, tout à fait. Les locaux ont été investis, saccagés. Le CENID, le Centre de défense des droits humains, même chose. Ça a été son statut juridique a été annulé. Donc vous avez raison de souligner que la pression l'état de terreur se poursuit. Néanmoins, l'opposition continue de s'organiser depuis le Costa Rica, depuis le Nicaragua, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais voilà, ces représentants communiquent entre eux et comptent sur à la fois les pressions extérieur et sur peut-être des médiations nouvelles. Le Mexique a proposé une médiation pour tenter une sortie, encore une sorte, des négociations, une sortie pacifique de cette crise. Donc, à voir. Mais l'opposition reste active où qu'elle se trouve, en fait.
Elle est déterminée, effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer de la résistance pacifique à une insurrection armée?
L'insurrection armée n'a pas eu lieu de fait. C'est-à-dire qu'on sait que les armes du côté de l'opposition, de manière ponctuelle, des armes ont été utilisées. C'est d'ailleurs présent dans les rapports de la CIDH, la Commission interaméricaine des droits humains et du groupe interdisciplinaire d'experts indépendants qui a été expulsé il y a peu du Nicaragua. C'était un risque. Néanmoins, il y a une rupture par rapport à ce qu'était l'insurrection armée contre Somoza à la fin des années 70, où là, ça n'est pas n'est pas dans les méthodes, ça n'est pas dans les objectifs que d'employer les armes pour demander le départ de Rosario Murillo et de Daniel Ortega. Donc ça n'est pas le risque est là, parce que les armes circulent au Nicaragua, mais ça n'est jusque-là pas la voie qui a été choisie.
Vous aviez parlé tout à l'heure des sanctions américaines. Dans quelle mesure est-ce que les États-Unis s'intéressent encore au Nicaragua ?
Ils s'intéressent beaucoup moins au Nicaragua que durant la guerre froide, bien sûr. Jusque-là, les États-Unis considéraient que le Nicaragua pouvait être une zone tampon et le gouvernement de Daniel Ortega pouvait être une zone tampon contre le narcotrafic. Donc jusque-là, c'était, disons, un voisinage en bons termes. Et là, les États-Unis, avec la présidence de Trump, sont déterminés à faire pression contre Daniel Ortega dans la mesure où les violations des droits humains sont massives. Enfin, on parle de au moins 325 personnes assassinées et de 500 personnes emprisonnées de façon arbitraire dans les geôles de la dictature.
Alors pour Daniel Ortega, les prochaines échéances électorales, c'est 2021 normalement. Il peut tenir jusque-là ?
Beaucoup de témoins, d'observateurs pensent que non, que le pouvoir par cette violence-là et par la terreur n'est pas viable jusqu'en 2021. Et d'ailleurs, c'est ce que demande l'opposition, des élections anticipées sans la candidature de Daniel Ortega.
Mais pour l'instant, il s'accroche vraiment.
Pour l'instant, il s'accroche, il n'y a pas d'issue. On attend de voir ce que les effets en fait du risque de la suspension du Nicaragua de l'Organisation des États américains et des pressions internationales et de la crise économique va intervenir, mais aussi là le témoignage était très intéressant, le témoignage de cet ancien militaire était très très vraiment très intéressant dans votre reportage du rôle de l'armée. Voilà, on attend de voir aussi comment l'armée va réagir à ces coups de pression internationaux.
Merci beaucoup Delphine Lacombe. Du Nicaragua au Costa Rica, l'exil face à la répression. Le grand reportage de cette semaine était signé Maïwenn Bordron. Réalisation Annie Bro avec Bruno Gagnère à la technique. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.